CQFD.
C'est dans un loft particulier que nous vous emmenons à présent en nouvelle diffusion. Rien à voir avec la télé-réalité, quoique, Cécile Guérin, on part découvrir un labo temporaire qui s'appelle Solace. Et on peut dormir dans ce labo. Il est installé dans le bâtiment expérimental Nest à Dubendorf, tout près de Zurich. Et il est notamment truffé de technologies solaires.
Alors j'en suis certaine, en voyant ce bâtiment, les scientifiques doivent beaucoup aux heures passées à construire des maisons en petites briquettes, vous savez, dans leur enfance. Oui. Parce que c'est pour cela qu'ils jouent encore. Mais dans un bâtiment grandeur nature futuriste, le fameux Nest, qui est développé par les chercheurs spécialistes des matériaux de l'EMPA et les experts de l'eau de l'EAVAG. En gros, comme avec les Lego, vous avez une plateforme centrale de plusieurs étages et vous pouvez insérer un module d'habitation différent. L'objectif, c'est de tester les innovations du bâtiment du futur. Et depuis fin septembre, les scientifiques du laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment de l'EPFL peuvent jouer. Ils participent à ce Lego géant avec Solace.
Solace, c'est donc le nom de ce loft scientifique.
Oui, Solace, où le soleil joue un grand rôle. Toute la façade du module doit produire l'électricité et la chaleur nécessaires pour une année de fonctionnement. Et à l'intérieur du loft, la lumière du soleil va être particulièrement choyée. Alors, je vous propose de visiter cette maison laboratoire grandeur nature en compagnie de l'architecte Pietro Florio, tout récent docteur au LESO, le laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment de l'EPFL. Il faut mettre des chaussons à l'entrée.
Oui.
Ok.
Ah, oh, c'est pas nécessaire, mais au moins, on n'abîme pas le linoleum.
Waouh, c'est très propre
très
alors.
Bien, oui.
C'est une surface de 100 mètres carrés. Et puis, c'est un open space. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de lumière partout. Ça, c'est parce qu'on fait rentrer la lumière dans le bâtiment. Et puis, il y a un espace bureau. Mais c'est très flexible, on peut réorienter les objets en fonction de ce que l'on fait dedans. Donc ça peut être un espace bureau, un espace meeting, séance, séminaire, etc. Et puis il y a un autre côté, plus living.
Ici, là où on est, donc il y a des meubles en carton en fait. Donc ça, c'est l'espace living.
Oui, le carton, c'était le choix pour rester durable même au niveau des matériaux utilisés. Et donc là, on a voulu rester très faible en énergie grise en utilisant des matériaux qui sont recyclables et qui ont un cycle de vie favorable.
Mais c'est joli, c'est très joli. C'est très léger aussi.
Oui, c'est très léger. Ça répond à l'exigence de flexibilité. On va mettre des oreillers ou quelque chose.
Ah voilà, des coussins.
Des coussins, oui. Pour que ça soit un peu plus confortable. Mais je trouve que c'est assez solide depuis... Moi, j'aime bien que c'est un peu plus dur parce que ça, pour le dos, ça m'aide. Je trouve que c'est sympa d'avoir ces meubles en carton. En plus, ils ont une esthétique et un design qui a été étudié pour ne pas les abîmer en s'assoyant.
C'est vrai que je me dis que c'est dur, mais c'est vrai que c'est étonnant que ça soit dur, un meuble en carton.
Oui, ça, c'est lourd. Donc, il y a deux sortes de meubles en carton. Là, vous voyez, il y a ce multicouche. Ici, donc les multicouches, ils sont plus solides. Là, vous avez les meubles pliables.
D'accord.
Donc ça, on peut plier.
Une petite chaise pliable.
Oui,
je m'assois dessus.
Donc ça, c'est surtout pour répondre à l'exigence de flexibilité de l'unité. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des espaces un peu flexibles. Ici, parfois, on va tirer ces rideaux jusqu'au bout. Et donc cet espace va être partagé en deux pour devenir deux bureaux jumelles.
Et puis à côté, je suis curieuse, il y a une espèce de capsule pour dormir, on dirait, enfin je sais pas.
Oui. Vous voyez comme cet espace en bois peut abriter jusqu'à deux personnes. Donc ici, il y a un lit, mais de l'autre côté, il y a un autre lit.
Ah, oui.
Donc on garde l'indépendance, la privacité, tout en économisant de l'espace précieux pour d'autres utilisations. Donc ici, l'utilisation primaire de l'unité, c'est pour travailler. Mais il y a de l'espace convivial pour la journée et pour se reposer aussi.
Bon. Alors sinon, donc on a ce 100 mètres carrés, ce bâtiment de 100 mètres carrés. Ce qui fait sa spécificité, c'est que vous voulez que ce bâtiment, il soit, on va dire, il produise plus d'énergie que ce qu'il consomme, c'est
oui,
juste?
Exactement. Donc on peut aller voir peut-être sur la terrasse, toute la structure du bâtiment est en bois. Donc ça aussi, c'est pour des exigences d'énergie grise, de low impact environnemental. Et vous voyez que la façade, elle est bleue, mais il y a beaucoup de cellules photovoltaïques de ce côté. Donc ça, c'est le côté sud. sud-ouest. Il y a ça, et puis du côté sud-est, nous avons aussi des capteurs solaires thermiques.
Pour faire de l'eau chaude.
Pour faire de l'eau chaude et pour le chauffage du bâtiment également.
Cécile, intégrer des panneaux photovoltaïques, c'est pas très novateur ça, non ?
Oui, c'est juste, mais la plupart, je sais pas si vous le savez, mais ils sont sur les toits. Et là, pour les inclure en façade, les chercheurs misent sur la couleur de ces capteurs.
Dans cette façade, l'idée et l'objectif étaient un peu d'avoir la même apparence partout pour avoir une uniformité de façade. Cet effet est obtenu à travers une couche nanotechnologique qui est laminée sur les cellules photovoltaïques. Et cette couche donne l'effet coloré au panneau. Comme ça, on peut obtenir cet effet. Maintenant, il est bleu-vert. On peut avoir aussi d'autres nuances, le rouge, le terracotta, le gris, le jaune gold.
Plutôt que d'avoir du noir, en gros.
Plutôt que d'avoir du noir. Donc, typiquement, ce que vous voyez dans le bâtiment BIPV, donc Building Integrated Photovoltaics, aujourd'hui, c'est du noir. Ce sont des cellules monocristallines noires. Mais ici, on voulait donner le choix aux architectes d'utiliser d'autres couleurs. C'est un aspect esthétique, mais l'important, c'est que même en donnant toutes ces possibilités esthétiques aux architectes, on garde 90 à 95% de l'efficacité des cellules photovoltaïques. Alors, les cellules photovoltaïques, elles ont une efficacité commerciale de autour de 20%, c'est-à-dire le 20% de l'énergie solaire qui arrive sur le panneau est convertie en électricité. On combine l'effet esthétique avec une très petite réduction de l'efficacité commerciale du capteur. Donc nous, on ne touche rien à la technologie photovoltaïque. On crée un nouveau produit qui se rajoute devant la cellule.
Parce que pour vous qui êtes architecte, jeune architecte, vous pensez que c'est un blocage pour faire ces façades photovoltaïques, la couleur ?
Le blocage qu'on a au niveau de photovoltaïque en façade, c'est surtout de convaincre la maîtrise d'ouvrage à les utiliser. Parce que parfois, c'est compliqué. Il faut monter des échafaudages. C'est pas facile à renouveler un bâtiment en utilisant du photovoltaïque intégré en façade. Commercialement, c'est plus intéressant d'utiliser les toitures. Elles sont plus accessibles, elles sont moins visibles depuis l'espace public. Ça gêne personne, il n'y a pas besoin d'installer des échafaudages. C'est ça la raison pour laquelle on ne voit pas tellement aujourd'hui du photovoltaïque intégré en façade. Mais ça, c'est en train de changer. Nous sommes dans un tournant énergétique. Il faut que les façades et tout l'enveloppe du bâtiment deviennent une enveloppe producteur. On ne peut pas se permettre de gaspiller de la surface utile qui se trouve sur nos bâtiments et qui est irradié par le soleil et n'est pas utilisé cette énergie.
Eh ben, il est bien motivé et convaincu, votre jeune architecte.
Oui, très convaincu. Il faut dire que c'est un laboratoire d'expérience inédite, pas seulement sur le photovoltaïque ou le solaire thermique, mais également sur le confort thermique et visuel avec de larges fenêtres qui font entrer le soleil.
Mais ça ne risque pas de surchauffer l'intérieur ?
Eh bien, justement, les vitrages sont conçus pour contribuer au confort des usagers, chauffer l'hiver, rafraîchir l'été. Et pour cela, les vitrages dans la partie supérieure vont intégrer des micro-miroirs pour laisser passer les rayons du soleil l'hiver, les réfléchir l'été. Les explications de la doctorante Zingong au LESO de l'EPFL, experte dans les vitrages.
Ceci est un vitrage très innovant, basé sur l'intégration de micro-miroirs dans un film à l'intérieur du verre. Des micro-miroirs invisibles à l'œil nu. Dans le futur, nous allons les installer seulement dans la partie supérieure de la façade. Ces miroirs microscopiques laissent le vitrage transparent.
Et à quoi servent ces micro-miroirs ?
As we all know that the mirrors can redirect daylight.
Comme nous le savons, les miroirs peuvent rediriger la lumière. Grâce à la réorientation de ces rayons lumineux, nous pouvons réguler l'arrivée de la chaleur selon les saisons. Par exemple, en hiver, nous dirigeons davantage de lumière dans la pièce et nous avons plus de chaleur. Alors qu'en été, les micro-miroirs dévient les rayons vers l'extérieur pour éviter trop de chaleur.
Alors Cécile Guérin, vous les avez vus à l'œuvre, hein, ces vitrages high-tech qui permettent de réguler la chaleur, ça marche ?
Je ne l'ai pas encore vu vraiment in situ parce que l'équipe travaille à l'industrialisation de ces vitrages avec l'entreprise BASF Suisse. Et d'ici la fin de l'année, il y aura un prototype installé pour pouvoir mesurer si effectivement ça marche. En plus d'orienter au mieux les rayons du soleil, les scientifiques veulent mesurer en temps réel les conditions d'éclairage et l'éventuel éblouissement.
Oui, ah ouais, effectivement, avec ces bâtiments hyper high-tech où il faut mettre ses lunettes de soleil pour voir son écran d'ordinateur, c'est vrai que ça peut être vite insupportable.
Oui, et c'est vraiment du vécu. Dans ces bâtiments modernes, des capteurs existent pour lever, baisser les stores automatiquement en fonction de la course du soleil. Mm-hmm. Sauf que jusqu'à présent, cela ne fonctionne pas vraiment bien. Les explications de Ali Motamed, il est chercheur au laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment de l'EPFL.
Pour l'instant, on utilise les capteurs qui se trouvent normalement au plafond pour trouver la situation lumineuse dans un bâtiment, mais qui ne ressemble pas vraiment à la situation lumineuse qu'on se trouve nous-mêmes. C'est pour ça que des fois, le système automatique s'est rejeté. Il baisse les stores quand la situation est très éblouissante. Et dans ce cas-là, il ne rouvre plus. Ça reste comme ça pour des semaines et des semaines.
Et ils mettent la lumière en plus, en plein jour.
Exactement, c'est ça. Cette situation a un effet très très négatif sur la santé des habitants dans le bâtiment parce que ils ne reçoivent pas assez de lumière. Et la lumière est très importante pour entraîner l'horloge biologique de l'humain. Et il y a un impact négatif sur notre santé.
Et alors vous, qu'est-ce que vous allez proposer ici ?
Alors, on aimerait bien proposer une solution qui est centrée sur un capteur qui reçoit de la lumière comme un œil humain. Mm-hmm. Je peux vous montrer.
Ah, vous avez le petit capteur ici parce qu'ils ne sont pas encore installés, hein. C'est
pas
tout nouveau.
Exactement, okay. C'est tout nouveau. C'est un capteur très très petit, c'est similaire à une cube de sucre. Et ça, il est calibré, complètement programmé au LESO, à l'EPFL. Il reçoit de la lumière comme notre œil. Et on place ce capteur proche de l'œil humain. Par exemple, sur l'écran ou sur la lampe de bureau, dans un environnement non résidentiel, les informations qu'il reçoit, c'est l'intensité de la lumière dans la pièce et le contraste. Ensuite, on passe ces informations très très importantes au système automatique du bâtiment.
Et lui va ouvrir ou fermer les volets.
Les volets et la lumière artificielle. Donc, il y a un système intégré de lumière artificielle et lumière naturelle qui nous permet d'obtenir un environnement confortable et proche de la nature, si c'est possible.
Mais c'est aussi très personnel. Enfin, je veux dire, quelqu'un peut avoir envie de travailler et puis avoir beaucoup de lumière et l'autre, il a moins besoin de lumière.
Pour l'instant, on va travailler sur un système général qui est basé sur la théorie trouvé par les chercheurs dans la science de physiologie, biologie, chronobiologie. Et on travaille sur le thème pour customiser chaque contrôle pour chaque utilisateur selon l'interaction qu'il a avec le bâtiment. Par exemple, s'il baisse les stores ou ouvre les stores, on enregistre ces interactions et dans le prochain jour, on utilise ces informations pour commander les stores et les luminaires. Je vous dis, c'est la recherche, on travaille là-dessus, les résultats, on verra si ça va convenir les gens.
Ce qui me gêne, c'est quand même d'avoir un œil qui regarde toujours ce que je fais.
Alors, il faut constater qu'il n'y a pas de seule image qui sort du capteur, parce que les images sont traitées sur le capteur, sur place, okay. Et on n'enregistre pas les images. Seulement l'indice de l'éblouissement, c'est une probabilité, c'est un indice qui montre la probabilité de l'éblouissement pour un utilisateur normal. Et si c'est 0%, c'est-à-dire pas d'éblouissement, et 100%, c'est-à-dire 100% des gens seront éblouis dans cette situation.
D'accord.
Et on peut utiliser le capteur pendant la période d'installation, de commissioning. Ça, c'est l'idée très, très récente sur laquelle on travaille pour l'instant pour utiliser le capteur, pas en permanence, pour une période d'un mois ou deux pendant l'installation, au début d'installation d'un système, et avoir un système apprentissage qui apprend par les mesures de capteurs. Et dès qu'on apprend suffisamment bien de gérer la situation lumineuse dans un bâtiment, on peut enlever le capteur.
Alors ce système a juste été testé pendant 8 mois dans le bureau des chercheurs, donc à l'EPFL. 33% de consommation électrique en moins au niveau de l'éclairage quand les stores sont ouverts et fermés à bon escient. Il y a également un gain pour minimiser le chauffage.
La découverte aujourd'hui dans ces QFD d'un bâtiment futuriste, il s'appelle Soleil, il se trouve près de Zurich, hein, à Dubendorf, un bâtiment notamment truffé de capteurs, avec ce point qui est plutôt rassurant, Cécile Guérin, les capteurs ne nous filment pas, heureusement j'allais dire.
Oui, les lofts est truffé de capteurs, mais c'est uniquement pour mesurer l'efficacité énergétique. Pietro Florio.
Le bâtiment, il est plein de capteurs pour mesurer la consommation instantanée en électricité et en chaleur, et la comparer à celle qu'elle est la production par les capteurs à la fois photovoltaïques et thermiques.
Et l'idée, c'est que sur une année, vous puissiez fabriquer plus d'électricité et de chaleur que ce que vous consommez.
Exactement. Évidemment, pas à toutes les heures de l'année. Donc c'est clair qu'aux nuits, on n'aura pas de production par le soleil. Et s'il y a de la consommation par les chercheurs qui travaillent souvent le nuit, il faudra la tirer du réseau électrique. Mais sur le bilan annuel, on compte produire beaucoup plus de chaleur de ce qu'il nous faut et être autosuffisant en électricité. Et donc on peut même partager ces surplus énergétiques qu'on a avec les autres unités voisines à travers le Energy Hub qui est tout en bas, exact.
Oui, parce que Soleil, c'est le dernier module arrivé sur ce bâtiment Nest qui teste plusieurs technologies et matériaux appliqués au bâtiment avec différentes équipes de recherche suisses qui sont chacun dans un petit bout de la maison.
Et c'est assez génial ce bâtiment. Allez voir hein, sur notre page rts.ch/CQFD parce qu'on a ces différents modules les uns à côté des autres, les uns au-dessus des autres. Et il est très particulier hein, ce bâtiment.
Un module où en plus les chercheurs sont censés habiter dedans pour vraiment voir si les technologies qu'ils mettent au point sont viables,
oui, c'est
entre
ça,
guillemets.
Ouais.
Et dans 18 mois, eh bien, il sera possible de connaître le bilan énergétique de Soleil et peut-être de le comparer avec d'autres technologies utilisées chez les voisins tout proches qui sont également des chercheurs. En attendant, eh bien, les scientifiques vont habiter chacun leur tour dans leur laboratoire maison.
L'idée est d'avoir un espace flexible ici sur un campus de scientifiques où on peut même vivre. Ça amène une mixité entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, de résidence, qui fait en sorte aussi que l'on puisse économiser de la surface bâtie. Ça permet de ne pas trop construire.
Ah, je comprends. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des laboratoires qui sont vides la nuit, on peut dormir à côté.
Exactement. Ouais, ouais.
Vous l'avez déjà dormi ici ?
Pas encore, mais on va venir dans une semaine. On va inaugurer. Vous avez vu, il y a même les duvets, ils sont déjà prêts. Tout est en place.
Voilà, merci à Pietro Florio, architecte, Ali Motamed, chercheur, et Zing Gong, doctorante au laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment de l'EPFL. Sujet CQFD en nouvelle diffusion préparé par Cécile Guérin. À noter que l'émission aujourd'hui vous propose ce samedi de visiter Esmart à Gland. C'est la maison intelligente qui calcule votre consommation d'énergie. L'émission aujourd'hui qui est à suivre ce samedi donc à 13h20 sur RTS1.
CQFD sur la première.